frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à Jérusalem en compagnie du Seigneur Jésus, nous, disciples du Seigneur en ce pays Toï. Et voilà que quelques Grecs, étrangers donc au peuple d'Israël, viennent à Jérusalem pour contempler l'une des merveilles du monde antique, la splendeur du temple de Jérusalem, où réside, pour le juif orthodoxe, la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Ces Grecs qui sont venus admirer la beauté du temple montent à Jérusalem, aspiration légitime de leur âme, pour adorer Dieu. Ils veulent adorer Dieu et demandent alors à voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Voilà le désir, chers amis, qui doit habiter nos âmes. Nous aussi, nous voulons voir Jésus. Nous voulons peut-être être vus par lui tout d'abord, qu'il pose son regard doux et miséricordieux sur chacun d'entre nous. La Sainte Vierge le reconnaît dans le Magnificat. Il a posé les yeux sur la pauvreté de sa servante. Ou encore les apôtres, alors qu'ils étaient pour la plupart pêcheurs près du lac de Galilée, ont été vus par Jésus. Ce regard les a saisis. Il les a alors appelés à sa suite et ont tout quitté pour se mettre à sa suite. Nous voudrions voir Jésus, nous voudrions être voir et nous sommes vus par le Seigneur Jésus. Nous l'entendons nous dire, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez en moi le repos. » Nous demandons au Seigneur, dans ce temps d'épreuve, dans un monde et une France méconnaissables par ses actes récurrents de barbarie, par ses nouvelles lois qui façonnent alors un monde nouveau, un homme déraciné, un homme dont la vie n'est plus garantie même dans le sein très pur de sa mère, également une mort qui sera de moins en moins naturelle, nous demandons au Seigneur de nous regarder avec sa douceur, avec sa miséricorde, et de nous encourager à porter l'humble témoignage de cette vie chrétienne, de cette vie qui se reçoit de Dieu, de cette vie chrétienne qui retourne à Dieu. Mais nous ne pouvons pas laisser, dans notre prière et dans ce désir légitime de voir le Seigneur Jésus, voir autant de nos frères et de nos sœurs être perdus par ce nouveau monde, par cet homme nouveau qui court à sa perte. Dimanche dernier, dans l'Évangile, le Seigneur annonçait, peut-être les temps que nous affrontons, ils préféreront les ténèbres à la lumière. Eh bien, demandons au Seigneur Jésus de poser sur nous son regard lumineux pour nous encourager à aller à sa suite. Demandons au Seigneur Jésus d'être illuminé dans notre conscience. Nous avons entendu avec quelle clarté le prophète dans la première épître nous disait que l'alliance nouvelle que le Messie viendrait lier, viendrait sceller par son sang, permettrait alors de connaître en vérité, parce que ce bon Dieu est alors à l'unisson de cette conscience. Mais combien de consciences en notre monde sont dévoyées? Combien de consciences ne connaissent plus le bon Dieu? Combien de consciences s'en sont gravement éloignées? Puisse le Seigneur poser sur eux, comme sur chacun d'entre nous, pour ses familles, pour ces paroisses, pour ces peuples que nous formons, un regard juste et miséricordieux, un regard qui nous saisit au plus profond et nous invite alors à nous mettre à sa suite, à retrouver le bon sens dans une conscience éclairée et droite, le bon sens qui respecte la vie, tu ne tueras pas, le bon sens qui retrouve celui de l'amour de Dieu, qui est fondateur de notre vie, comme de toute civilisation. Et en nous détournant de Dieu, tout d'abord, l'édifice s'effrite. Il montre quelques fissures, jusqu'à petit à petit s'effondrer. Nous assistons à un effondrement spirituel, un effondrement de valeurs. Et nous voyons alors la bienveillance être remplacée par une malveillance de chaque instant, qui n'est pas de notre fait la plupart du temps. Mais voilà que nous ne reconnaissons plus le monde. Puisse le bon Dieu avoir alors pitié de nous, c'est ce que nous lui demandons. Avec ce désir qui animait ces quelques Grecs nous figurant chacun, nous voudrions voir Jésus. Voir Jésus, voir la vérité, voir l'amour, de quel amour chacun nous sommes aimés. Pour voir Jésus, le chemin qu'empruntent ces Grecs est celui que tout chrétien doit emprunter. Pour voir Jésus, ils ont trouvé quelque intermédiaire, les apôtres eux-mêmes. Pour voir Jésus, il nous faut suivre la foi reçue des apôtres, la foi intégrale, la foi véritable et vraie, portée dans ce sens de la foi par le peuple chrétien. Voilà qu'ils sont conduits par les apôtres, et par les apôtres, ils accèdent à Jésus. Nous aussi, c'est sur cette foi qui repose sur les apôtres que nous pourrons voir alors Jésus. C'est le grand désir qui habite les saintes Écritures. Quand est-ce donc, Seigneur, que je pourrai vous voir face à face ? Avec, dans l'Ancien Testament, cette crainte, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien voilà que ce Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus le Christ, annonce qu'il va mourir. Il se compare au petit grain de blé, un grain de la foi, de l'espérance et de la charité qui a été semé en notre âme, arrosé abondamment par l'eau de la grâce, de notre baptême, comme de chacun des sacrements. Le Seigneur nous dit qu'il est comparable à ce grain de blé qui doit tomber en terre pour porter du fruit. Le blé, nous devons le planter juste avant l'hiver, pour que le froid fasse son œuvre, image de cette mort qui pourrait paraître tout détruire. Mais voilà que le grain de blé qui a vécu le froid de l'hiver a cette résistance pour comme ressusciter lorsque vient déjà le printemps. Le Seigneur nous dit qu'il est donc ce grain de blé qui va être tombé en terre, déposé au tombeau, donc dans le mystère de sa mort, mais pareil au petit grain de blé qui va donner l'abondance de l'épi et la riante moisson, voilà que le Seigneur Jésus annonce que par sa résurrection, nous serons chacun enfants de la résurrection. Nous contemplons alors ce Seigneur qui nous dit qu'il doit être élevé de terre sur le bois de la croix pour attirer à lui tous les hommes. Nous voudrions voir Jésus et nous le voyons en croix, offrir sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Nous lui demandons alors l'humble pardon de nos fautes. Nous lui demandons pardon de ne pas toujours être fidèle à la foi reçue des apôtres, à accommoder cette foi aux manières du monde. Alors nous demandons aux apôtres de nous conduire à Jésus par le chemin de la vraie foi, de l'espérance authentique de la vie éternelle, mais également manifester cet amour par cette charité. Demandez au Seigneur de nous aider à aimer comme lui aime. Voilà la perfection de la prière chrétienne. Ce grain de blé tombé en terre, ce Christ en croix qui attire à lui tous les hommes, c'est ainsi que nous pourrons le voir en vérité. Nous le verrons en vérité au moment de notre mort, qui sera pour chacun notre Pâque. La mort, c'est la séparation de notre âme, principe de vie, de notre âme éternelle, de notre corps mortel. Nous avons commencé le carême en recevant les cendres. Souviens-toi que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas pour désespérer pendant 40 jours, c'est pour raviver notre foi, nous rendre compte qu'il y a cette vie ici-bas passagère, avec son lot d'épreuves, avec ses chemins de croix. Autant d'occasions où nous rencontrons le Christ souffrant, mais aussi le Christ compatissant. Et puis, voilà qu'en le suivant ainsi, dans le mystère de nos épreuves, au moment de notre mort, nous le verrons. Il fera alors toute la lumière sur notre existence, et nous prions humblement pour qu'il puisse nous dire, comme en son parabole, « Entre maintenant, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Et nous portons dans notre prière toutes ces âmes en purgatoire qui attendent la pleine purification de leurs fautes pour leur vie passée ici-bas, pour qu'ils puissent parvenir, par la prière de l'Église reposant sur celle des apôtres, aux sources vives du salut, pour qu'ils puissent alors voir enfin Jésus et être comblés de ce bonheur éternel. Ce chemin du carême, qui figure toute vie chrétienne avec son lot d'épreuves, avec son lot d'aridité, nous permet d'accueillir le Christ qui est la source d'eau vive, qui seul peut étancher la soif que nous avons de tout connaître, la soif légitime qui se trouve en nous de connaître les grandes réponses. Pourquoi suis-je ici-bas sur la terre? Qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi ici-bas? Qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle? Autant de choses que dans le secret de nos âmes, le Seigneur murmure à nos âmes. Nous lui demandons de pouvoir être doux et humble comme lui l'est, de pouvoir aimer comme lui a su si bien nous aimer, et humblement reconnaissant nos fautes, nous savons qu'il nous a rachetés par son sang et que nous lui devons le salut éternel. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, qui gardait et méditait chacun des événements de la vie du Seigneur, venir à notre secours, elle qui est la mère de miséricorde. Avoir pitié de nous, petit reste d'Israël, avoir pitié de tous ces peuples innombrables qui ne savent plus où ils en sont, comme paralysés par un monde qui va si vite et qui opère tant de changements et de bouleversements avec des conséquences que nous ne mesurons pas toujours maintenant. Puisse donc Notre-Dame nous prendre fermement par la main pour nous conduire à Jésus, car nous voulons nous aussi voir Jésus. Puisse-t-il nous combler de son amour et de sa miséricorde, ainsi soit-il.